Les trois machines dont on parle là sont des PC consolisés, mais elles restent des PC aux composants fabriqués sur des sur mesure, notamment AMD, à des specs demandés par les constructeurs. Le marché de l'IA, lui, par contre, en accaparant les lignes de production pour son expansion, il empêche d'avoir la moindre certitude pour une sortie en 2027, 2028 ou 2029.
Depuis le studio 01 de Blueprint, je m'appelle Yann Rieder et vous écoutez le jeu vidéo. La prochaine génération de consoles sera compliquée ou ne sera pas. Pas de chance pour nos amis constructeurs car après la pandémie Covid en 2020, voilà que Sony, Microsoft, Nintendo, Valve et les autres doivent faire face à la politique de Donald Trump, à l'augmentation du prix de l'énergie ou encore à l'envol des prix de la mémoire vive et du stockage. Pour y voir plus clair, j'interroge Franck Extanasier pour lui demander ce qu'il y aura dans les consoles de demain, mais également si demain c'est vraiment demain ou si c'est dans 2-3 ans grand minimum. Enfin, j'espère que vous aimez les jeux car il y en a beaucoup dans cet épisode. Je vous parlerai de Pokémon Pocopia, de la réédition numérique de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille ainsi que d'une Nintendo Switch 2 édition assez discutable. Grégorienko sera là pour faire le point sur le dernier Steam Next Fest et vous aider à faire le plein de jeux PC. Franck, quant à lui, nous parlera de marathon. Vous écoutez le jeu vidéo, c'est parti. La mort progressive des consoles de jeux au profit tantôt du jeu sur téléphone ou du jeu sur PC a été largement exagérée. Malgré un lancement compliqué suite aux pénuries causées par la crise du Covid, la génération PlayStation 5 et Xbox Series suit son cours depuis près de 6 ans. Et justement, comme nous avons été habitués à de nouvelles consoles tous les 7 ans environ, la question se pose légitimement de savoir ce qui nous attend pour la PlayStation 6, ou projet Améthyste, et le projet Helix de Microsoft. Pour y voir plus clair sans trop jouer le jeu de la spéculation hasardeuse, j'accueille aujourd'hui Franck Extanasier. Salut Franck!
Bonjour Yann.
Commençons si tu le veux bien avec les pénuries en puissance. Le marché de l'intelligence artificielle générative fait monter le prix de la mémoire vive, autrement dit la RAM, mais aussi du stockage. Tout ça a un impact sur la production dans les domaines électroniques et informatiques, et donc y compris les consoles. Selon des informations de Bloomberg, Sony envisagerait un lancement de la PlayStation 6 en 2028, voire 2029. D'autres analystes maintiennent que 2027 reste une fenêtre de lancement plausible. Valve, de son côté, ne sait pas quand ou à quel prix sera lancée la Steam Machine. Est-ce qu'on est dans une situation plus compliquée encore que 2020 pour les constructeurs ?
Yann, je suis l'industrie depuis plus de 2 décennies et le hardware depuis quasiment autant. Je n'ai jamais vu une telle situation. Vraiment. C'est durant le Covid, il y avait des pénuries à cause des nombreux confinements et des risques sanitaires. Ça, c'était normal. Les pénuries en Chine venaient essentiellement de l'arrêt de la force de travail dans les usines et notamment auprès des collecteurs de terres rares et du minage qui permettaient d'obtenir les matériaux. Les gens étaient chez eux, mais les matériaux et les moyens de production, ils étaient présents. C'est ça qui est important de savoir. L'industrie fonctionnait au ralenti, mais elle attendait une amélioration sanitaire pour reprendre son fonctionnement. On n'est pas du tout dans le même cas de figure. Ici, les moyens de production ont été alloués. Donc, ils ont été pris afin de produire prioritairement pour les fournisseurs de clients IA. Oui, alors ils se sont simplement retirés du marché public pour se concentrer et concentrer tous leurs efforts dans cette industrie de l'IA. C'est le cas des grands fabricants de puces mémoire, notamment Micron, qui est connu par le grand public sous le nom de sa marque de RAM et de SSD, qui est crucial. Le rétrécissement de l'offre suite à son retrait a naturellement fait doubler les prix de la RAM en quelques jours à l'époque. Donc dès l'annonce des fin octobre, le prix de la RAM a doublé en quelques jours pour se stabiliser à partir de décembre et depuis à un facteur qui va de x3 à x6 sur le prix de la mémoire en fonction de la fréquence. Le stockage SSD qui n'est pas de la DRAM mais de la NAND 3D, c'est-à-dire on les différencie parce que la NAND est de la RAM mémoire non volatile. Il est aussi touché par ce retrait de crucial qui était l'un des grands leaders du marché du stockage flash avec Samsung. Aujourd'hui, on est donc, comme je disais, sur la RAM à x3 à x6 et sur les SSD, on est à x2 à x3 sur les prix, la variation se faisant sur la taille des SSD et des SSD M2 NVMe. Il y a encore 6 mois, 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz, que je recommande dans nos configs, notamment chez Tech2, coûtait environ 120€. Aujourd'hui, on en trouve parfois, quand on a de la chance, à 450. pour la même RAM en 64Go, il faut compter environ 800 euros, voire beaucoup plus, puisque si tu prends de la RAM, par exemple, de la Trident Z5 Neo, qui est l'une des meilleures RAM du marché, il faut compter 1000 euros les 64Go. Les SSD NVMe, ils étaient autour de 55 euros du Tera, voire moins. En 2024, on est tombé beaucoup plus bas. On est au-dessus de 120 euros pour le Tera. Les tarifs sont proches de ceux du Covid. Et eux, par contre, ils alliaient la nouveauté du PCIe 4 avec les pénuries. Le hardware, il n'est plus du tout nouveau. Les SSD NVMe PCIe 4 sont désormais remplacés par une nouvelle génération, le PCIe 5, qui est plus rapide, qui est évidemment beaucoup plus cher. Mais là, aujourd'hui, on est au même prix qu'en 2021 à peu près, en étant en 2026. Et la tendance va s'accentuer si aucun changement n'arrive dans l'industrie. Donc, pour les constructeurs, Valve y compris, hein, les négociations de prix sur la mémoire vive, donc la RAM, et le stockage, elles vont être complexes. Mais aussi sur la mémoire vidéo, c'est-à-dire la GDDR6 ou la GDDR7 qu'on met dans les cartes graphiques, qui elles aussi vont être très difficiles à sourcer, puisqu'elles sont déjà accaparées par le marché de l'IA, qui a besoin de la mémoire GDDR et surtout de la mémoire HBM, qui sont fabriquées par les mêmes usines. Valve a donc ce double problème en ce moment avec ses Steam Machines, parce que le casque VR aussi a besoin de mémoire et d'un peu de stockage parce qu'il est indépendant.
Le Steam Frame, ouais.
Le Steam Frame, voilà, il a besoin de mémoire, il a besoin de stockage aussi puisqu'il est, c'est un standalone aussi. Et donc, Valve a besoin de négocier ses prix pour permettre de conserver un tarif accessible et une marge correcte. Et ça, c'est un vrai, vrai dilemme. Pour Sony, le volume sur la durée pourrait être un argument en sa faveur, évidemment, puisqu'on a vendu 100 millions de consoles. Faites-nous un prix, vous allez les vendre. Xbox peut arguer que c'est une branche de Microsoft et peut-être jouer sur le poids de l'entreprise, mais la marque ne peut pas vraiment se vanter de ses ventes, malheureusement. Les trois machines dont on parle là sont des PC consolisés, mais elles restent des PC aux composants fabriqués sur mesure, notamment AMD, à des specs demandés par les constructeurs. Le marché de l'IA, lui, par contre, en accaparant les lignes de production pour son expansion, il empêche d'avoir la moindre certitude pour une sortie en 2027, 2028 ou 2029. Beaucoup de studios tablent sur des sorties de jeux en 2028, et ils ne seront pas prêts avant, parce qu'ils sont en plein développement. Un lancement de console dans le contexte annoncé par ces analystes-là, c'est-à-dire en 2027, dans un contexte industriel catastrophiquement tendu aujourd'hui, et sans aucun line-up solide, ça n'a pas vraiment de sens à mes yeux, en fait. Vraiment pas. Donc, je pense que tabler 2028 serait intéressant.
Ce qui est intéressant là-dedans aussi, alors, un petit peu plus dans le domaine de la rumeur pour le coup, c'est Tyler McVicker sur sa chaîne YouTube qui se spécialise notamment sur les rumeurs autour de Valve et qui a un relatif bon track record en termes de fiabilité, qui disait que, en gros, pour les Steam Machines, Valve est dans une telle situation défavorable qu'ils ont envisagé à un moment de vendre la machine sans RAM et de demander à l'utilisateur de lui-même trouver les ressources nécessaires pour pouvoir mettre la RAM dans l'appareil, ce qui paraît vaguement plausible, considérant également que comparé à Sony et Microsoft, bah, Valve, ça va représenter des volumes largement inférieurs pour la Steam
Machine. C'est ça, et c'est ce que font actuellement les System Integrators, c'est-à-dire les vendeurs de PC prémontés. Je ne parle pas de vendeurs comme Asus ou d'autres qui vendent des PC préfaits, je parle des prémontés comme on en trouve chez LDLC ou chez Case Kings ou chez Topasha, tu vois, ou chez PC Componentes quand ils en font. Ça, ce sont des PC qui sont prémontés. Ils ne sont pas préfaits, tu choisis parfois selon les variations, tu peux avoir des variations de boîtier, de machin. Et bon, c'est déjà arrivé pendant le Covid, par exemple, ils vendaient les PC sans carte graphique parce qu'il fallait te débrouiller pour trouver ta carte graphique. Là, on est dans une telle tension, puisqu'avec le retrait de Micron, c'est quand même presque 30% du marché de la RAM grand public qui disparaît.
Le prix a littéralement explosé.
Le prix a explosé. Ben, je veux dire, quand tu vois que j'ai fait un PC pour quelqu'un, moignon que je salue, je lui avais fait acheter son matos il y a un an. Pour des raisons de santé, il ne pouvait pas s'en occuper avant. Il a monté sa machine. Il s'était trompé malheureusement, il avait acheté la mauvaise RAM à l'époque. Bon, ben, la mauvaise RAM, il va la revendre quasiment au prix deux fois ou trois fois le prix quasiment parce qu'elle est neuve. Celle qu'il a achetée lui a coûté 400 francs suisses pour le coup parce qu'il est suisse. C'est abusé, tu peux pas dépenser, on en parlait, CAF en a parlé plein de fois, notamment chez Canard PC dans Contrôle Technique avec Agbou. La RAM qu'on a mis dans son PC, 64Go de GDDR5 de 6000 MHz, on en avait pour le bilan, je crois qu'on en avait pour 220 ou 240 euros. La même RAM aujourd'hui, elle coûte 800 €.
Dépenser, dans le cas de la RAM précédente, quasiment le prix d'une Switch de juste dans la RAM.
C'est le prix d'une carte graphique surtout. C'est le prix d'une carte graphique. La RAM, 64 Go de RAM, c'est le prix d'une carte graphique, ce qui est, qui elles aussi ont augmenté. Il faut le dire aussi, parce que les cartes graphiques plus haut de gamme, c'est-à-dire les 5010 Ti Super, 5010 Ti pardon et 5080, la 5080, elle a pris 30% dans pas mal de boutiques. Donc c'est non plus, on peut plus non plus accéder aux cartes graphiques sans avoir un markup important.
Si tu le veux bien, parlons maintenant des choix techniques, technologiques autour de ces nouvelles consoles. Si j'ai bien suivi, pour Microsoft comme pour Sony, les priorités semblent être autour de deux choses: le ray tracing d'une part et l'intégration de composants permettant de meilleures performances pour toutes les tâches liées au machine learning, donc caricaturalement l'intelligence artificielle, même si caricaturalement. D'autre part, donc, est-ce qu'il y a autre chose et quel impact est-ce que ces deux grandes tendances devraient avoir sur nos jeux ?
Il y a beaucoup de bruit autour des technologies basées sur le machine learning, mais l'important à savoir pour nos auditeurs, c'est que les deux constructeurs ont besoin de proposer la meilleure qualité d'image dans un hardware qui va être limité. Les prochaines machines vont proposer des technologies de super sampling et d'amélioration du rafraîchissement plus poussées qu'aujourd'hui, évidemment, et le ray tracing en fera partie puisqu'il fait partie de tout ce système. Il faut des effets d'annonce, évidemment, et des rendus qui flattent les rétines, mais technologiquement, il faut s'attendre à des machines d'aujourd'hui ou d'hier, en termes de combo GPU et CPU, en fait. Un combo qui semblerait possible à mes yeux aujourd'hui, ce serait un système on-chip, un custom, évidemment, fait par AMD, qui serait proche du 7800X3D, adossé à un GPU RDNA4 ou RDNA5, si les consoles arrivent en 2028 ou 2029. Parce qu'on a eu une annonce qui est sortie avant qu'on enregistre hier, sur le fait que apparemment AMD va attendre que Nvidia lâche sa série 60, qui pour l'instant n'est qu'un vœu pieux, parce que on est repoussé, on n'a pas eu de série super et on n'aura pas de carte graphique, je pense, au moins avant la fin de l'année 2026. Ils sortiront leur carte RDNA5 à ce moment-là. Si elles sortent donc fin 2026, ou si elles sont annoncées fin 2026 ou début 2027, il est possible que la technologie RDNA5 soit intégrée dans les consoles qui sortiront en 2028 ou 2029. Si maintenant ils vivent un blocage des spécifications à 2027, voire 2028, là on partira sur un GPU RDNA4. Par contre, sur le processeur, je pense qu'on va rester quelque chose assez proche du 7800X3D, donc 8 cœurs, 16 threads. Peut-être quelque chose basé sur les nouveaux processeurs Ryzen AI, qui ont des Neural Core en plus. Mais ça, ce sera découvert quand les consoles sortiront. AMD, évidemment, étant le fournisseur attitré des deux constructeurs, sauf retournement de situation vu les attaches entre Microsoft et Nvidia, avec notamment autour de l'IA, par exemple, parce que Microsoft avait déjà travaillé avec Nvidia sur sa première Xbox et ça s'était très mal passé. Donc, sauf retournement de situation qu'on n'ait pas vu depuis 25 ans, c'est AMD qui va construire entièrement le système des consoles. Ce qu'on a vu depuis quelques semaines chez AMD présage des technologies qui seront implémentées dans ces consoles. Le FSR Redstone, qui a été présenté fin 2025, qui est une version du DLSS et de sa génération de trame, donc ce qu'on appelle le Frame Generation en anglais, sera évidemment au centre de cette amélioration de l'image, avec le ray tracing qui est mis en valeur dans les présentations. Si ça apporte un plus en termes d'image et d'immersion dans les jeux photoréalistes, je ne trouve pas personnellement que ce soit un point d'orgue fortement intéressant. Évidemment, ça fait un effet waouh, c'est très sexy, c'est très beau, ça te permet d'avoir des super réflexions, mais il est plus important à mes yeux de proposer une machine qui peut afficher des jeux à un très bon taux de rafraîchissement en qualité native, ou alors de l'aider par les technologies de super sampling à atteindre les définitions plus élevées, c'est-à-dire si on peut avoir du 1080, du 1440p natif très propre, et ensuite on super sample pour le 4K, pour avoir un 4K 120 qui est vraiment stable, là c'est intéressant. Si c'est pour avoir ce qu'on a actuellement, notamment sur les PS5 ou les 360, ou les Xbox Series X, qui permettent d'avoir du 1080p natif avec un peu moins d'effet, mais un bon framerate, et après du 4K qui est upscalé très fort à partir d'une base qui est parfois en 720p, parce qu'on a fait un... On a une génération, enfin un DLSS mobile, donc qui va s'adapter en fonction de la charge qu'il y a à l'image. S'il y a beaucoup d'effets, par exemple, la définition va baisser de base. Là, c'est un peu moins sexy et on ne verra pas l'évolution par rapport aux machines qui ont, mine de rien, déjà 6 ans bientôt.
Je fais un petit point anglicisme. Tu disais réflexion, on parle évidemment des reflets dans les flaques ou dans les surfaces lisses, en l'occurrence. Enfin, Il y a Microsoft, parlons de Microsoft spécifiquement, qui arrive au terme d'une deuxième génération problématique sur le champ de la console. La nouvelle patronne de Microsoft Gaming, d'ailleurs première femme à diriger une entreprise de jeux, enfin un constructeur, littéralement, Asha Sharma, promet un retour à Xbox, peu importe ce que ça veut dire, d'autant que la stratégie annoncée d'ouvrir la Xbox à d'autres boutiques en ligne d'une part et de continuer de considérer que la marque Xbox doit être également présente sur PC, sur smartphone, en cloud et sur les machines concurrentes, bah, semble être autant de prolongations du statu quo de la situation actuelle. Quel est ton regard sur ces premières orientations ?
Mon regard, il est avant tout circonspect. D'abord l'orientation que veut prendre Xbox, mais aussi sur les choix qui ont été faits depuis nombreuses années. L'une des problématiques, c'est le manque d'identité, ou plutôt le forçage d'une identité qui n'en est pas vraiment une, en fait. Entre tout est une Xbox et les nombreux rachats de gros studios, je peine quand même à trouver une identité Xbox dans ce patchwork d'acquisition de studios qui sont au final restés les mêmes. Sur le point des jeux chez la concurrence ou sur PC, j'y vois pas de problème tant que tu sais identifier clairement ta licence. Là où Xbox a péché à mes yeux, par orgueil, par confiance ou par manque de vision, c'est qu'il y a beau avoir des licences fortes, la marque n'a à mes yeux pas su se réapproprier ses marques autrement que dans une communication orientée business qui brasse plus de vent que ça ne crée d'ouragan, en fait.
On est une grande famille.
Voilà, oui. Après, parlant de la grande famille, elle a saboté ou du moins détruit des projets qui apportaient justement cette identité marquante à la branche gaming de Microsoft. Hi-Fi Rush, par exemple, c'est un très bon exemple de faux pas immédiat qui a envoyé un très mauvais signal, puisqu'ils ont eu de très bonnes notes sur le jeu, critiques et du public. Les ventes n'étaient pas immenses, mais on connaît les sleepers qui se revendent beaucoup mieux quelques mois après, et ils ont viré tout le monde. Et puis, il y a l'autre cas aussi qui m'a beaucoup déçu, qui est Everwild, qui est un autre signal alarmant d'un manque de vision et surtout de considération, où après le petit-déj, on envoie des gens chercher leur chèque, tu vois.
Qui était le nouveau projet Fantasy de Rare.
C'était le nouveau projet Fantasy de Rare. Selon les infos qu'on a pu obtenir à droite à gauche et de gens notamment intéressés par le projet, Everwild était vraiment en phase finale de développement. Et quand je dis phase finale, c'est qu'il était, il était quasiment fini. Il manquait du polish et ce genre de choses. Donc c'est compliqué. On a quelque chose qui est très compliqué là-dessus. Quand tu dis le jeu est presque fini, mais en fait on le dégage. Pour les développeurs, c'est un signal très alarmant parce que nous sommes dans une industrie, les gens parlent entre eux. Et quand tu vois, quand tu discutes peut-être des fois un an ou deux après avec tes collègues et que les mecs disent « bon ben non, mais ce projet-là, il a été shelf, il n'y avait pas de raison vraiment, on n'aurait peut-être pas vendu énormément, mais c'est un retour plus comptable que créatif. » Et je suis conscient que Microsoft est une entreprise immense, et une méga-corp et tout. À un moment, si tu passes plus de temps à regarder ton livre comptable quand tu fais des bénéfices monstrueux sur toutes tes branches, c'est qu'il y a un problème au niveau créatif et justement qu'il y a un problème au niveau identité.
Et c'est d'autant plus étonnant, si tu me permets, que le but, notamment avec le Game Pass, c'est de faire du catalogue. Et de mettre de côté un jeu comme Everwild alors qu'il était vraisemblablement proche d'être terminé, ce qui n'était pas le cas par exemple du Perfect Dark.
Oui,
qui lui,
ça aussi c'est un truc qui était extrêmement attendu par les fans et qui était quelque chose de... qui avait une identité pour Xbox.
Oui, et puis qui allait être une sorte d'hybride avec Mirror's Edge, ce qui aurait été intéressant parce qu'on n'a eu que deux Mirror's Edge dans la vie. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus vu et qu'on n'en ait pas plus
c'est
su.
Ça, et c'est pas la première fois que Microsoft fait des faux pas avec des développeurs, annule des projets. Enfin, ça a commencé il y a presque 25 ans avec l'immense problème, l'immense four et grande problématique qui était True Fantasy Live Online. Qui a été presque un scam parce qu'il y avait le côté le Japon d'un côté qui développe le jeu et l'Amérique de l'autre qui ne comprend pas, les deux ne s'entendent pas, les deux ne se comprennent pas, et ça fait un gâchis parce que le jeu a existé entre guillemets puisqu'il y avait des démos à essayer, il y avait des builds qui ont pu être essayés par la presse déjà à l'époque, et le jeu avait un potentiel absolument incroyable pour l'époque. Et il était à milieu de ce qu'on a pu voir plus tard en MMO, j'allais dire occidental. Donc c'était quand même quelque chose d'important.
Pour conclure, sur la question de la fiabilité de Xbox, on est quand même à un ou deux jeux par conférence estivale auparavant l'E3, maintenant on va dire la période Summer Game Fest, qui n'aboutissent pas. On a des jeux comme ça qui sont présentés, et Xbox est maintenant le dernier constructeur, le dernier éditeur chez qui ça arrive de manière aussi récurrente.
C'est ça.
Et donc,
il y a Ubisoft,
je pense qu'il y a de quoi nourrir la circonspection dont on nous parlait en début de réponse.
C'est ça. Et puis, tu vois, en 2026, il y a Gears of War ID qui doit sortir, donc cette année. Et après l'échec relatif de Halo Infinite qui n'a pas su fédérer au final, je suis relativement inquiet de la nouvelle direction de Xbox. Et je suis inquiet que cette direction soit plus intéressée à consolider financièrement une sortie profitable qu'à investir lourdement pour retrouver un souffle d'innovation et de différence qui faisait aussi la patte de la marque. Parmi les prochaines grosses licences attendues, il y a évidemment les prochains jeux de Bethesda, donc The Elder Scrolls 6 et Fallout 5, où Xbox n'a pas imprimé sa marque et où, comme pour le catalogue Activision Blizzard, les choses se font un peu en dehors de l'univers de la marque. Et ça, c'est dommage. Parce que tu rachètes des studios, que tu rachètes Call of Duty, qu'on garde Call of Duty comme un produit, entre guillemets, qui va sur toutes les consoles et qui n'est pas identifié Xbox. J'entends, ça fait partie des négociations qu'il y a eu lors du rachat avec Sony et tout ça. Par contre, les autres licences, il y a énormément de licences qui sont sur les étagères d'Activision. Des bonnes licences. Il y a Blizzard, par exemple. Oui, Blizzard, c'est Blizzard. Blizzard a son identité. Microsoft pourrait profiter des moyens dont l'entreprise dispose et Xbox pourrait profiter de la puissance dont l'entreprise dispose pour pouvoir justement essayer de farmer un peu de l'aura, comme diraient les jeunes. Aura farming, tu vois, t'essayes de rajouter quelque chose, de relancer ton World of Warcraft et pas juste d'avoir un jeu qui a certes plus de 20 ans, qui vit tout seul, qui sort une extension cette année, et on le laisse dans son précaré quand tu rachètes quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut avoir un contrôle absolu dessus et faire du micromanagement. Ils le font déjà, de toute façon. Ils l'ont fait déjà sur des marques, enfin des entreprises qu'ils ont rachetées. Je pense à Arkane Austin ou d'autres, où ça a été un nettoyage assez violent. Mais à ce moment-là, au-delà du micromanagement, essayez de créer, un peu comme Sony et Nintendo ont su le faire, surtout Nintendo, mais créer un groupe autour des personnages, des grandes licences de votre maison.
Oui, des écuries par licence.
Pas forcément des écuries, parce que si tu commences à penser en écurie, Yann, ça crée un autre problème. C'est tu crées les mêmes pôles qu'a créé Ubisoft récemment. Tu crées des pseudo-écuries et ça te permet d'écrémer plus facilement quand une écurie est moins rentable. Tu la coupes d'un coup et tu coupes toutes les branches de l'arbre au fur et à mesure. C'est un peu la théorie du rameur.
C'est ce qui s'est passé avec certains partenaires de Nintendo, ceci dit. Je dis pas nécessairement que c'est positif, hein, mais tu regardes Alpha Dream, alors certes qui n'était pas un studio first party, qui était un partenaire de Nintendo et qui développait les Mario et Luigi. Ils se sont retrouvés dans une situation économique. Les derniers Mario et Luigi, avant la reprise par un autre studio là récemment, n'ont pas bien fonctionné sur le marché. Bon, Alpha Dream a fermé.
C'était un pal. Oui, mais ça c'était un partenaire. Là, c'est des rachats, c'est des trucs internes. Donc, à mes yeux, il y a une obligation, quand tu es des studios internes, tu as une obligation de fournir des moyens pour obtenir des résultats. Tu ne peux pas demander du résultat si tu ne fournis pas de moyens. Je sais que ce n'est pas comme ça que l'entreprise fonctionne. On l'a tous vécu, devoir faire le même résultat que l'année d'avant avec 20% de budget en moins. C'est cynique, c'est inique, c'est stupide. S'ils veulent retrouver une image bénéfique, parce qu'ils n'ont pas une image très positive actuellement, malheureusement, et je parle en tant que on était les deux messieurs portant le X de Xbox avec Epion notamment pendant très longtemps. On aimait la marque parce que il y avait les consoles étaient bien, la Xbox 360 a été un phénomène. S'ils veulent retrouver quelque chose, ne serait-ce que la moitié du phénomène Xbox 360, il va falloir qu'ils fassent un examen de conscience important.
Sur la personne d'Asha Sharma, et on va s'arrêter là-dessus, je voulais juste dire quelque chose aussi, qui est que je ne préjuge absolument pas des intentions d'Asha Sharma, qui pour l'instant annonce globalement ce qui est dans les pipelines. Elle n'a pas vraiment l'occasion de changer grand-chose, j'imagine, dans le strict immédiat, et c'est bien logique vu la situation dans laquelle on se trouve, fin de génération, etc. Néanmoins, ce que je trouve intéressant malgré tout, et je le l'étends au monde du business, c'est que malheureusement, quand on décide de mettre une femme à la tête d'une entreprise, dans un certain nombre de cas de figure, ça signifie qu'on lui donne le sale boulot d'annoncer les mauvaises nouvelles, de prendre les bilans financiers négatifs, et d'être la tête de proue
dans le système
d'une catastrophe
là,
en puissance.
Ça a été le baiser
donc,
de la mort.
Je pense pas qu'on en soit là spécifiquement, mais enfin, encore une fois, la circonspection à nouveau est de mise, non pas vis-à-vis de ses compétences, mais vis-à-vis de pourquoi on a décidé de la mettre là cette fois-ci maintenant. C'est plutôt ça où je m'interroge un tout petit peu. Mais voilà.
On a vu passer certains messages d'anciens de Xbox, notamment le créateur de Xbox, au sujet d'Asha Sharma, qui lui est extrêmement inquiet, puisqu'il dit Asha Sharma, son track record, c'est d'être une fossoyeuse aussi. Donc peut-être que, voilà, moi je ne le souhaite pas, je souhaite très fortement que Xbox, ne serait-ce que pour l'industrie et pour un équilibre de l'économie où Sony a toujours péché par orgueil au fur et à mesure des années, Sony ne sait pas, une fois que Sony a atteint un certain point, Sony ne se sent plus. Et Sony devient presque anti-consumer et ne traite plus bien ses utilisateurs et ses fans et ses clients. Donc il faut conserver une concurrence qui est solide pour que on ait un écosystème sain, parce que la concurrence dans un système comme le nôtre, c'est une concurrence qui est saine et qui est importante.
Et précisons enfin une dernière chose peut-être, qui est que si les ventes de Xbox ne sont vraiment pas bonnes et si Microsoft ne communique plus sur les ventes de Xbox, c'est pas non plus un cataclysme. C'est-à-dire qu'ils sont largement derrière, certes, mais...
c'est pas la GameCube, on est d'accord.
Xbox existe toujours d'un point de vue commercial, même si effectivement, et vous pouvez le voir dans les magasins, la part dédiée à Xbox est clairement réduite. Donc, il y a toujours une place pour Xbox demain, comme il y en a une pour aujourd'hui, mais si elle devait être équivalente à celle d'aujourd'hui, elle serait largement inférieure à la place que prennent Sony et Nintendo respectivement. Franck, tu es mon binôme dans le podcast technologie intitulé Tech2. Merci d'avoir répondu à mes questions et à tout à l'heure pour Marathon.
À plus tard.
Si vous souhaitez aider cette émission, abonnez-vous en podcast sur l'application de votre choix. Donnez-nous une note et un feedback via la page Apple Podcast ou Podcast Addict. Et enfin, soutenez-nous par un don régulier ou ponctuel sur www.blueprint.pm/don. Vous écoutez le jeu vidéo ne peut se développer que grâce à vous. D'avance, merci. Je vous propose une nouvelle sélection de jeux, et ce mois-ci, je me suis concentré sur les sorties Nintendo, étant donné qu'on parlera plus tard dans l'épisode de jeux PC avec Grégory et de Marathon avec Franck. Sans plus attendre, attaquons avec Pokémon Pocopia, une simulation de vie cosy au pays des Pokémon, développée par le studio Omega Force de Koei Tecmo, publiée exclusivement sur Switch 2, au prix de 70 francs suisses ou 70 euros. Alors ce Pokémon Pocopia, le premier truc qui saute aux yeux à mon avis, c'est que l'univers est excessivement mignon du côté d'Omega Force, probablement appuyé par la Pokémon Company bien sûr. On a été très bien conseillé pour faire en sorte d'exploiter au mieux tout ce bestiaire avec des dialogues qui sont rigolos, mièvres certes un petit peu, mais pas non plus insupportables, y compris pour l'adulte que je suis. Et ça, déjà, c'est une petite victoire. Le gameplay est assez malin, puisqu'il se rapproche, certes, d'un Animal Crossing, mais en fait, véritablement beaucoup plus d'un Dragon Quest Builders, auquel je n'ai pas joué, mais j'ai pu voir 2-3 personnes, notamment des amis, jouer à l'époque. La licence commence à avoir un petit âge. Et c'est assez malin, parce que c'est Minecraft, mais avec des étapes supplémentaires. C'est Animal Crossing, mais avec des étapes supplémentaires. Là aussi, sur un univers quadrillé, formé de voxels, formé de cubes un petit peu dans tous les sens, on va réhabiliter un lieu pour qu'il soit plus adapté à la vie aux Pokémon en général et aux environnements spécifiques que recherche chaque Pokémon en particulier. Et en retour, les Pokémon vont nous aider à récolter des ressources, vont nous apprendre de nouvelles techniques qui nous permettent d'interagir avec les lieux et de faire progresser l'histoire. Ou alors, si on le souhaite dans un mode plus créatif, d'aller faire ce qu'on veut dans l'univers, d'aller décorer sa région, sa maison, la maison des différents Pokémon et les régions environnantes. C'est franchement malin, d'autant que via le mode multijoueur, il est possible d'avoir sa propre île, sa propre région qui est indépendante de la partie de chacun et qu'on peut aller modifier, peu importe qui est en ligne ou qui ne l'est pas, parce que c'est sur un serveur complètement à part. Donc une idée franchement intelligente pour encourager le côté collaboratif derrière Pokémon Pocopia, qui est, après son scénario également, une facette du jeu. De mon côté, ceci dit, Je me suis malheureusement ennuyé quelques heures après le début du jeu. J'ai pu y investir quelques heures malgré ma situation de handicap. Et justement, le problème est là, je crois. Pour pouvoir vraiment profiter de Pokémon Pocopia, il faut avoir le temps. Il faut avoir envie de s'y investir à fond. C'est un jeu qui est plus exigeant, typiquement, qu'un Animal Crossing. Et dont on a moins l'habitude des différentes demandes pour pouvoir réaliser certaines choses. Autrement dit, on est moins habitué que Minecraft, que, entre très gros guillemets, tout le monde connaît aujourd'hui, tout le monde connaît un peu l'échelle de progression dans le mode survie de Minecraft, ou alors simplement dans le mode déco qui existe aussi. Ce qui signifie que, de mon côté, étant limité par justement le fait que je joue avec mes pieds, avec une manette dont il manque certains boutons pour pouvoir profiter pleinement du jeu, c'est pas impossible de jouer, mais par contre dans les phases un peu plus lentes, car il y a des phases lentes où on demande par exemple à un Pokémon de complètement traverser la map pour en rejoindre un autre, et c'est encore pire quand c'est Ramalos bien sûr, ou alors dans certaines phases où on nous demande fais telle action répétitive pendant un certain temps pour faire avancer les choses, quand on est en situation de handicap, malheureusement ça devient rébarbatif à mon avis. Et c'est fort dommage parce que je vois plein de gens, y compris des amis, qui s'y sont lancés à corps perdu, qui ont joué les fastoches 50 heures qu'il leur a fallu pour terminer le jeu et qui ont beaucoup aimé et qui ont trouvé le jeu très addictif. Mais là, voilà, pour moi, je décroche à cause de ça. Il faut vraiment pouvoir s'y investir niveau temps, à mon avis. D'un point de vue accessibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas impossible de profiter de ce Pokémon Pocopia malgré un handicap et malgré une manette limitée. Par contre, ça veut dire qu'on serait un peu plus imprécis d'une part. D'autant plus que le réticule qui est utilisé pour pouvoir viser, pour pouvoir appliquer un effet, pour pouvoir utiliser une technique sur le terrain, typiquement l'arrosage, c'est un réticule en forme de plus, ce qui signifie que c'est vite imprécis, on n'arrive pas forcément à faire ce qu'on veut, on peut perdre assez rapidement son temps. Pareil, la caméra suit l'action du joueur avec le stick gauche, le stick qui permet de diriger le mouvement du personnage, ce qui est chouette parce que du coup ça permet d'y jouer sans être trop complexe, d'autant plus qu'on peut, il y a une option, et c'est une des rares options involontairement d'accessibilité dans le jeu qui permet de faire en sorte que ce mouvement de la caméra est plus, colle plus avec chaque mouvement qu'on fait avec les mains, est plus réactif. Néanmoins, la caméra, elle va aussi parfois se bloquer un peu en haut ou en bas, à rasmote ou alors en contre-plongée de manière un petit peu gênante dans les deux cas, suivant le genre de mouvement qu'on fait et le genre de terrain qu'on monte ou qu'on descend. Et ça peut devenir un peu gênant et c'est un peu difficile de recaler ça sans accès facile au stick droit. Et c'est dommage, j'aurais aimé pouvoir recentrer les choses un peu plus facilement. Pokémon Pocopia, ça reste une game keycard et on en a beaucoup parlé lorsque le jeu a été annoncé, moins maintenant qu'il a un succès d'estime et un succès commercial important. Mais voilà, si vous achetez la version physique, n'oubliez pas que vous n'avez pas le jeu sur la cartouche, vous avez simplement une clé d'accès au jeu qui vous permet de lancer le jeu quand le jeu est téléchargé et qu'en même temps, vous avez la cartouche à l'intérieur de votre Nintendo Switch 2. Voilà pour Pokémon Pocopia, donc un jeu qui m'a moins accroché que Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, les versions GBA d'il y a plus de 20 ans. Les remakes de Pokémon Rouge, Bleu et Vert, si on était au Japon, bien sûr. Alors, c'est le jeu, rien que le jeu, il n'y a pas de save state, il n'y a pas de menu spécial, il n'y a même pas d'ailleurs de menu de langue, hein. Il faut vraiment acheter la bonne version avec la bonne langue que l'on souhaite, et à 20€ le jeu, on y reviendra, mais c'est vrai que c'est cher, et c'est cher pour une langue. Néanmoins, il y a eu quand même quelques petits correctifs et quelques petites mises à jour qui ont été appliquées au jeu, principalement autour de contenus qui ont été à récupérer à travers des cadeaux mystères qui ne sont plus récupérables aujourd'hui, notamment la possibilité d'avoir accès à Deoxys, Ho-Oh et Lugia après avoir battu le Conseil des 4. On se retrouve avec un ticket qui permet de prendre le bateau et d'aller récupérer ses Pokémon, ce qui est un chouette ajout pour le coup, et ce qui rappelle par exemple quand Nintendo a rajouté sur Nintendo Switch Online Super Mario Advance 4 avec les niveaux e-reader de Super Mario Bros 3 à l'intérieur. Ça reste un joli petit challenge, hein, ce Rouge Feu Vert Feuille, très clairement, puisque c'est vraiment le Pokémon bleu-rouge de l'époque, assez difficile, avec quand même quelques attaques supplémentaires, merci la Gen 3 et merci notamment à ça sur Salamèche qui se retrouve avec une attaque acier, ce qui lui permet de faire mieux face aux champions d'arène, Pierre et ses Pokémon, ils ne sont pas du tout bien taillés à la base pour un match-up avec des Pokémon feu en face, plutôt notre Pokémon n'est pas bien adapté à ses Pokémon à lui, ça aide un petit peu. Voilà, prenez ça à la mèche d'ailleurs, parce que ça vous permet d'avoir Suicune après avoir terminé le Conseil des 4. Mais c'est un autre sujet, et on parle évidemment bien sûr de mes préférences en matière de Pokémon légendaire. C'est acceptable visuellement parlant sur un écran de télé, là où j'ai joué, malgré une mise à l'échelle qui est peu orthodoxe, puisque sauf erreur, la résolution, enfin la définition de l'image est multipliée par 4,5. Et généralement, quand on multiplie par un chiffre qui n'est pas entier, ça peut faire des trucs un peu bizarres à l'écran. Là, je trouve que ça va. Attention donc, comme je l'ai dit, à la sélection de la langue au moment de l'achat. Et en parlant de l'achat, 20€, 20 francs suisses, c'est cher pour un jeu GBA. Alors, pour rappel, pour comparaison, un jeu console virtuelle GBA avec quelques fonctionnalités en plus, justement, notamment de remap de touches et également de save state, ça ne coûtait que 7€, 7 francs suisses sur Wii U. Voilà, est-ce que ça les vaut à 20 balles ? Ça, c'est un peu dans le cœur de chacun. À titre personnel, je trouve que c'est cher payé, malgré quelques petits ajouts. Reste que c'est un très bon jeu, c'est un bon jeu Pokémon en termes d'équilibrage, en termes de combat, dans le mode solo, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, à mon avis. Il y a un challenge qu'on n'a pas retrouvé depuis très longtemps dans la licence Pokémon principale. Et c'est vrai que ça fait envie aujourd'hui, quand on a une Switch, de se replonger là-dedans. Et 20 balles, très clairement, à mon sens, c'est scientifiquement étudié, en quelque sorte, pour être juste assez acceptable. Et c'est excessivement malin de leur part. Ça fait grincer des dents, bien sûr, mais je pense qu'ils en vendent des tractopelles. Et vu la position du jeu dans les top 10, top 20 de ventes dématérialisées sur Switch, je crois que ça accrédite cette théorie. Sinon, appel de phare, évidemment, du côté de Game Freak, hein, il faut nous sortir Pokémon Emerald, il faut nous sortir Pokémon Noir et Blanc, il faut nous sortir Heart Gold et Soul Silver, il faut nous sortir Pokémon Platine. D'excellents jeux qui sont aujourd'hui indisponibles, qui sont dans vos coffres, les amis, et qui sont facilement portables sur Switch. Je fais passer le message. Enfin, et attention, le titre est compliqué, Xenoblade Chronicles X Definitive Edition Nintendo Switch 2 édition est disponible pour 5€, 5 francs suisses, sauf erreur, et nous promet à la fois une upscale, c'est-à-dire une meilleure résolution, une meilleure définition à l'écran, et en même temps, de l'écran de la télé principalement, aussi de l'écran portable, et également une fréquence d'image de 60 images secondes comparée à 30 sur la version entre guillemets originale de la Definitive Edition sortie l'année dernière sur Switch. Et ben les amis, ce n'est pas une bonne upgrade. On la range au champ des mauvaises upgrades de Nintendo Switch 2 édition, comme Super Mario Party Jamboree TV pour d'autres raisons dont on a parlé. Je crois que c'était à l'époque dans la cartouche, dans un des derniers épisodes de la cartouche. Et en l'occurrence, oui, il y a une très bonne vidéo de Digital Foundry là-dessus, où en gros la méthode d'upscaling est sale. Et n'a pas les effets, n'a pas un effet particulièrement heureux sur l'image déjà sur l'écran de la télé. Ça se remarque si on garde un œil dessus. En gros, il y a certains trucs qui disparaissent, il y a des distorsions un petit peu bizarres. Bref, la technique d'upscale laisse clairement à désirer, mais c'est particulièrement violent également en mode portable. Et c'est là où vraiment on ne peut que déconseiller la chose. Il faudrait vraiment avoir envie du 60 images par seconde et principalement jouer sur la télé et ne pas avoir grand chose à faire des problèmes d'image que cette mise à jour cause pour être ok avec cet achat. C'est même pas une mise à jour gratuite, mais c'est un achat. Voilà où on s'en retrouve avec Xenoblade Chronicles X Nintendo Switch 2 édition. Pour la plupart des gens, il vaut mieux rester avec la version de base, y compris quand on est sur sa Switch 2. Voilà pour ce que j'avais à dire sur les jeux auxquels j'ai pu jouer dernièrement. À noter que pour chacun d'entre eux, un code m'a été fourni par l'éditeur. Après la pause, on parlera de Marathon et du Steam Next Fest précédent, mais tout de suite, vous écoutez Memory Zone French Song sur la bande-son de The Stanley Parable Ultra Deluxe.
Je suis dans la Memory Zone, seul sur la pluie des loups, et je n'attends plus que toi, mon amour. C'est là, dans la Memory Zone, où je me remémore les jours je t'ai rencontré, mon amour. Mais ici, c'est aussi où je me souviens de la sortie de The Stanley Parable. C'était en 2013, un très bon jeu vidéo, du moins après les journaux, mon amour. De plus nostalgie que les prix du public qui reçut à l'IGF, mon amour. Ici, dans la même horizon, se rassemblent les deux fantômes de The Stanley Parable. Sommes dans la même horizon, mais me voilà pris le coup. Ne me force pas à choisir, mon amour. J'aimais la version d'hier, la nouvelle fera-t-elle l'affaire? Plus j'y pense, plus je te perds. Voilà pourquoi maintenant j'erre dans la même horizon.
Depuis le studio 01 de Blueprint, je m'appelle Yann Rieder et vous écoutez le jeu vidéo. Faire découvrir son jeu PC dans un océan de nouveaux titres n'est pas chose facile et c'est pourquoi Valve organise plusieurs fois par année le Steam Next Fest ou Steam Neo Fest en français. La dernière édition en date s'est tenue entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2026. Pour nous en partager son opinion sur les jeux qu'il a pu découvrir, j'accueille mon ami Grégory Yenko, journaliste pour l'agence de presse Belga. Bienvenue!
Bonjour Yann.
Alors, Greg, on va commencer par les clones de Balatro. C'est une petite industrie en elle-même. Et le premier jeu de ta sélection, c'est Black Jacket.
Oui, Black Jacket, qui est en fait un Balatro du Blackjack, simplement. C'est développé par le studio autrichien Mipumi Games. Pourquoi Balatro du Blackjack? Simplement, ça va reprendre plus ou moins les mécaniques de ce fameux jeu de cartes où on devait faire des mains de poker pour gagner des points. Là, ça va être simplement avec la mécanique du jeu de cartes de Blackjack. Si vous ne connaissez pas, à partir d'un deck de 52 cartes, vous devez en fait obtenir un score le plus proche de 21 avec les valeurs de toutes les cartes déployées, sans pour autant dépasser ce total. Et ici, dans Black Jacket, en fait, vous jouez l'histoire d'un homme envoyé dans les enfers, mais qui se voit proposer de revenir à la vie s'il parvient à se défaire d'une vague d'ennemis par le pouvoir du Blackjack. Donc vous allez avoir des duels, durant lesquels vous devez détrôner votre adversaire en misant avec justesse des pièces glanées au cours de l'aventure, et celui qui s'approche le plus de 21 sans dépasser gagne. Et en fait, entre les duels, on arrive dans cette fameuse mécanique de Balatro, c'est que vous allez atterrir sur des cases bonus pour décrocher des améliorations sur vos cartes, ou encore dans des magasins pour en fait acheter des séries de cartes ou même des jetons qui auront aussi des effets sur vos parties, par exemple faire plus 2 sur une carte ou diminuer la valeur d'une carte, ce genre de choses. Évidemment, dans la démo, il y avait déjà beaucoup d'effets, je crois qu'on était déjà bien sur plusieurs dizaines d'effets, mais ils en promettent beaucoup plus pour le jeu qui va sortir normalement en 2026. Il n'y a pas encore de date précise, malheureusement, pour cette sortie.
On va maintenant chez les forains avec Racoin.
Oui, c'est un mélange simplement de raccoon, raton laveur, et coin, pièce, car il s'agit avant tout d'un jeu de pousse-pièce, ces fameux jeux que vous voyez à la fête foraine de votre village ou de votre quartier. Là, c'est développé par le studio chinois Dorakun et édité par Playstack, qui est en fait l'éditeur de Balatro, justement. Et donc l'objectif ici, c'est d'atteindre un certain score en faisant tomber le maximum de pièces dans le trou devant nous. Il y a des améliorations en fait entre chaque partie avec des jetons spécifiques qui permettent par exemple de coller des jetons entre eux. Donc comme ça c'est plus facile évidemment de faire tomber une grosse boule de jetons plutôt que quelques-unes par-ci par-là. Ça vous permet aussi de détruire les jetons qui freineraient votre progression. Il y a aussi des bonus pour secouer le pousse-pièce comme vous aviez très envie de le faire quand vous étiez enfant ou pour faire apparaître des cadeaux sur le plateau, etc. Et donc c'est assez addictif malgré le côté. Ça paraît aléatoire comme ça des machines. J'imagine qu'en effet, dans la réalité, c'est assez aléatoire. Ici, il y a quand même des mécaniques qui font que vous pouvez avoir une certaine adresse pour pousser les pièces le plus facilement possible. Et ça, ce jeu-là, il est disponible déjà dès le 31 mars.
Rien à voir maintenant, on sort de l'univers des Balatro-like et on se rapproche pour le coup de GeoGuessr avec MapMap.
Oui, MapMap, c'est des Allemands de Pipapo Games, qui est en fait une.
Wow!
Ah oui, Pipapo Games, c'est très joli comme nom de studio, je trouve. C'est une introduction au métier de cartographe, avant que Google Maps, Apple Plans et Waze débarquent, tout simplement. En fait, vous débutez sur une île, et une confrérie de cartographes en herbe vous propose d'indiquer précisément des endroits sur une carte vierge. En fait, au début, bah, vous êtes sur une toute petite île, hein, c'est peut-être 10, même pas 5 mètres carrés, et on vous dit, bah voilà, il y a un palmier là, dis-nous où il est sur la carte. Simplement l'orientation au début, puis vous avez des outils de plus en plus performants, comme une boussole, un mètre, etc. Donc c'est une progression qui est assez rapide et amusante, et en plus c'est assez cosy parce que vous n'avez pas forcément de punition si vous ratez. Simplement vous devez recommencer et vous avez même des indices qui apparaissent au fur et à mesure si vous galérez vraiment trop. La DA est très très mignonne, c'est vraiment très très sympathique comme petit jeu. Et je suis fan des petits map-map qui sont énoncés par les personnages qui vous parlent. Simplement, ils vous disent map-map-map-map-map. Donc c'est très sympa. La sortie, ce sera au deuxième trimestre 2026.
Vraiment en bouche map map par Pipapo Games, c'est un délice.
On peut pas faire plus parfait.
Rien à voir avec la future console de Microsoft, Helix Descent
Oui, c'est vrai que j'avais même pas fait le rapprochement avec la nouvelle console, avec le nouveau projet d'Xbox. Donc là, c'est un jeu belge du studio Badass Mongoose qui va être très ravi du SEO. Donc c'est un jeu d'exploration et de puzzle dans un univers en noir et blanc qui joue justement sur la dualité du personnage qui aborde différents pouvoirs selon la couleur du monde dans lequel il évolue. Vous avez ainsi cinq pouvoirs qui apparaissent au fur et à mesure, comme le pouvoir de dédoubler votre tête pour se rendre dans des endroits inaccessibles, par exemple. C'est vraiment un petit casse-tête avec de l'exploration et un peu de plateforme. Jusqu'à présent, j'étais vraiment enivré par l'univers qui est proposé. Le développeur flamand évoque en fait un style artistique entre les comics indépendants des années 80, les mangas, l'école franco-belge des années 90. J'y vois en effet beaucoup de grosses inspirations Moebius et des bandes dessinées de genre de l'époque. Et comme tout est en noir et blanc, il y a énormément de détails et c'est ça qui est assez fascinant. Là, on est vraiment presque devant une œuvre artistique, mais le gameplay est aussi très intéressant. Et ça sort le 21 mai.
Et enfin, il n'est pas passé inaperçu lors du Nintendo Partner Showcase d'il y a quelques semaines. On monte tous dans le train régional avec Densha Tag.
Oui, Densha Tag, qui est un jeu d'arcade dans un univers futuriste japonais, un peu à la Jet Set Radio, qui est en fait fait par un studio espagnol qui s'appelle Undercoders. Donc je disais, c'est un univers à la Jet Set Radio, et en même temps, c'est un mélange de Subway Surfers, de Sonic Adventure 2 et de Tony Hawk Pro Skater, si je peux tout résumer comme ça. Vous jouez en fait enfin la conductrice, pardon, d'un train qui circule de ville en ville à une époque durant laquelle les cités sont coupées du monde extérieur, et entre ces villes, ville, il y a des rails. Mais attention, c'est pas les rails pour aller de Paris à Bruxelles ou de Genève à Lausanne. Vous avez des rails en hauteur, à gauche, à droite, à l'envers, en biais. Et pour rejoindre ces rails, vous pouvez sauter, vous pouvez réaliser des kickflips, des frontflips, des backflips, des 360, etc. C'est absolument fou. Donc c'est comme si vous aviez un skateboard à la place du train. L'objectif, c'est évidemment de finir les niveaux le plus vite possible, mais aussi de réaliser le maximum de tricks pour récolter des points, aussi de récupérer des objets cachés dans chaque niveau. Donc chaque niveau, en fait, vous allez le refaire plusieurs fois parce que rien que la première fois, vous ne pourrez pas tout faire. La prise en main est quand même complexe au début, mais le tutoriel est assez long pour vous permettre de vous amuser, de tester plein de combinaisons. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez. La seule punition, finalement, c'est que vous perdez du temps. Donc c'est pour ça que je disais, vous allez de toute façon recommencer plusieurs fois, une fois pour faire le niveau le plus rapidement possible, une fois pour faire le maximum de points, une fois pour aller chercher les objets cachés, ça dépend un peu. Donc c'est un jeu qui est à taper dans l'œil de beaucoup, et je le comprends, ça sort le 17 juin 2026, et cette fois ce sera pas seulement sur PC, mais c'est aussi donc sur Switch, Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series.
Et je le dis à nos confrères de Canard PC, s'il n'y a pas en intertitre Jet Set Navigo, il y aura des conséquences. Si vous êtes curieux, la prochaine édition du Steam Next Fest aura lieu à partir du 15 juin 2026. Quant à toi, Greg, on peut te retrouver au montage de cette émission, mais aussi et surtout aux manettes du podcast cyclisme qui s'appelle La tête dans le guidon, ici sur Blueprint. Merci beaucoup.
Merci Yann.
Allez hop, surprise, la licence Marathon est de retour. Près de 30 ans après Marathon Infinity sur Mac, voilà que Bungie, qui s'est occupé avec deux hobbies portant le nom de Halo et de Destiny, nous propose aujourd'hui Marathon. Et malgré le fait que le studio nous fasse une Battlefield en reprenant le même titre que le jeu original de la licence, il s'agit bien d'une pure nouveauté. Et c'est celle-ci que va nous décortiquer Franck Extanasier, qui a pu tester le jeu avec une clé de l'éditeur. Rebonjour Franck.
Rebonjour Yann.
Alors, c'est le premier jeu de Bungie depuis leur rachat par Sony en 2022 et 25 ans après la création du studio. Il y a donc beaucoup d'attentes. Il s'agit d'un extraction shooter, donc d'un jeu qui sera directement comparé avec Ark Raiders. Qu'est-ce que Marathon propose d'original dans ce contexte ?
Alors, évidemment, Marathon est comparé à Ark Raiders directement, puisque ce sont tous les deux extraction shooters. Cependant, il y a deux points principaux qui les différencient. Le premier, évidemment, celui qui saute aux yeux, c'est que Ark Raiders est un TPS, donc qui se joue à la vue à troisième personne. Marathon est un FPS, qui se joue en vue première personne.
Un FPS comme l'était le premier Marathon.
Bien sûr, comme les Destiny, comme les Halo, ce sont des FPS. La deuxième différence, elle est beaucoup plus dans l'identité, dans l'identité profonde du jeu. Ark Raiders base tout sur un lore assez simple. Des robots sont arrivés de l'espace et ont attaqué l'humanité, ils l'ont rasé. Il y a des survivants, il faut aller chercher. Tu es un scavenger, tu vas ramasser, tu remontes à la surface pour aller chercher du matériel et tu t'en vas. Tu peux collaborer, tu as une partie collaboration qui est intégrée, entre guillemets, pour atteindre des objectifs et tout le monde revient à la cité ou dans sa cité pour pouvoir ramener et revendre les items qu'ils ont scavenged. Marathon, c'est très différent. Marathon, dans son lore, la coopération n'existe pas. On est dans un univers que je qualifierais de dark cyberpunk. Déjà que le cyberpunk, c'est dark, mais là, c'est vraiment très, très dark. C'est très sombre. C'est très ultra-libéral, on pourrait dire, puisque tu es un esprit, une sorte d'esprit, un agent. On ne sait pas exactement qui tu es au début du jeu, et même, c'est extrêmement peu montré. Il faut progresser beaucoup pour le savoir au fur et à mesure, et tu n'as pas toutes les réponses. Mais ton personnage et semble être un humain qui a vendu son corps, entre guillemets, et son esprit pour être intégré dans ce que le jeu appelle des shells, c'est-à-dire des coquilles, qui sont des robots qu'on envoie sur la planète Tau Ceti 4 pour aller récupérer des clés, aller scavenge, donc aller aller fouiller, récupérer du matos. Tu fais de la récup, tu es un récupérateur de matériaux pour le compte de grandes compagnies. Donc tu as des contrats, tu as un système qui est beaucoup plus fouillé qu'Ark Raiders, qui a des contrats liés à des personnages pour améliorer des choses, récupérer du loot. Là, tu as des contrats selon différentes entreprises. C'est un système très fouillé. C'est un système beaucoup plus sombre, déjà. C'est Marathon propose quelque chose qui est original dans son lore, dans son univers. Dans son esthétique, c'est ce que j'allais dire, la direction artistique ne laisse pas indifférent, déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça extrêmement laid. C'est laid. c'est moche, oui, parce que c'est
le futur du code-barre, en quelque sorte.
C'est un peu ça. C'est-à-dire, une direction artistique que, personnellement, j'aime beaucoup, parce que c'est un parti pris très particulier. Mais c'est beaucoup d'aplats. T'as pas vraiment de texture. C'est des trucs très à plat. Ça fait penser un peu à ces films d'animation des années 90. 90 pour nos amis suisses et belges qui sont très à plat, tu sais, et en même temps ça permet d'avoir un jeu qui est techniquement plus léger, qui est efficace, qui est très flashy, parce qu'il y a beaucoup d'aplats de couleurs très 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 flashy, en fait, des rouges qui
visuellement
pètent,
plus lisible, du coup.
Non, alors ça, malheureusement, non.
Ah.
Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème que j'ai noté sur mon temps sur Marathon. C'est que le jeu a une esthétique aussi très pixel, notamment dans ses menus, notamment dans ses items. Et d'un premier abord, quand on arrive dans le jeu, on est totalement perdu parce que c'est difficile de reconnaître, d'identifier facilement la lisibilité dans les menus. La lisibilité en jeu, c'est un parti pris, elle est aussi difficile dans le sens où dans Ark Raiders, bon, tu n'as qu'un ennemi, ce sont des arcs. Donc, ce sont des robots. Alors, tu as des soucoupes, des espèces de soucoupes qui flottent. Tu as des robots qui marchent. Tu sais que ce sont des robots et qu'il n'y a que des robots. Les autres adversaires sont des humains. Si tu choisis d'aller combattre, tu vas combattre des humains avec des tenues humaines, des comportements humains. Dans Marathon, les ennemis sont les ennemis PVE sont des drones. Et ce sont des robots marcheurs. Certains ont des boucliers, certains ont des armes. Et à une certaine distance, il est extrêmement difficile d'identifier un robot d'un humain avant un bon moment. Parce que tu n'as pas d'humain, en fait. Les shells on pourrait dire les runners utilisent dans le jeu sont aussi des robots. Puisque ce sont des humains qui pilotent, qui ont mis leurs esprits dans des robots et qui descendent sur ces planètes. Alors les différents personnages ont des capacités. C'est différent de Ark Raiders aussi de ce point de vue-là. Parce que dans Ark Raiders, tu as un arbre de compétences qui est le même pour tout le monde. Et après, tu choisis si tu veux augmenter, par exemple, la vitesse et la flexibilité, la réactivité. Tu veux augmenter ta force, le poids que tu peux porter et certaines capacités liées à la force. Et tu as le troisième arbre qui est beaucoup plus sur du sustain, du support. Tu vas avoir, par exemple, de la vitesse d'ouverture de porte, d'autres choses dans ce genre, en fait, qui sont plus sur du support, du soin ou de l'endurance, par exemple. Tandis que dans Marathon, chaque classe de personnage, donc il y a déjà plusieurs classes qui sont disponibles. Il y en a une, par exemple, qui est uniquement pour les joueurs solo. Donc quand tu joues, par exemple, le Rook, tu vas jouer solo et tu vas apparaître à moitié du temps, à peu près, et tu vas être dans une configuration où tu as un équipement qui est différent, tu ne peux pas faire de mission pour progresser. Par contre, tu y vas pour ramasser du matériel, tuer des gens et essayer de t'es vraiment ce qu'on appelle un rat dans l'univers, c'est-à-dire tu y vas pour ramasser les miettes et choper les retardataires. Mais les autres classes sont clairement définies. Tu as un gardien avec un bouclier, tu as un scout, donc le Recon, qui par exemple lui a un détecteur de présence qu'il peut utiliser avec un énorme cooldown. Mais par contre, si lui, naturellement, quelqu'un le cible, donc s'il est tagué dans le jeu par une autre équipe, il a un avertissement comme quoi il a été tagué. Il y a un médic qui est vraiment, c'est un toubib avec des soins et c'est un personnage plus de support. Tu as un assassin qui va devenir invisible et qui n'est vraiment pas visible, notamment sur certaines maps avec de la pluie et le reste. Il va être difficile de le voir, qui lui est vraiment dans tout ce qui est la furtivité et l'assassinat vraiment discret. Enfin, tu vois, tu as plein de classes différentes que tu n'as pas dans Ark Raiders.
Okay.
Donc il y a vraiment des différences et il y a des intérêts dans les deux.
Juste en deux mots, tu m'as expliqué hors antenne qu'en gros, le jeu est sympa, le jeu est fun, mais en même temps, le jeu est trop difficile pour toi.
Alors, c'est pas qu'il est trop difficile pour moi, c'est que je suis pas un gros joueur compétitif. Je l'ai été très longtemps, je fais beaucoup de compétitions, que ce soit de la LAN ou même des compètes en ligne, que ce soit sur Unreal, même les jeux de baston, mais Unreal, j'ai fait beaucoup de Halo, j'ai fait beaucoup de Gears of War, j'ai même fait du Call of pendant très longtemps. J'ai vieilli et c'est vraiment pas la même idée. Dans Ark Raiders, tu peux te balader, tu peux, si tu veux, tu pars à l'aventure. Tu peux tomber sur des gens sympas. Il y a un matchmaking qui est construit aussi pour favoriser une ou l'autre partie, c'est-à-dire en fonction de comment tu joues, tu vas aller dans des lobbies qui sont ressemblant à ta manière de jouer, c'est-à-dire que si t'es vraiment un mec qui a décidé de donner-moi une arme, je veux tuer, je veux faire la guerre, là tu vas tomber sur des mecs dans le même mood que toi. Mais si tu es oh, j'aime bien me balader, je veux faire de la rando, tuer des robots et aider les gens, ben tu vas être poussé petit à petit. Plus tu joues de cette manière-là, plus tu vas aller dans des lobbies où les gens te ressemblent. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un gros point fort de Ark Raiders. Dans Marathon, tu discutes pas, tu tires d'abord. Marathon, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas
donc
de chat open.
Donc ça punit beaucoup plus vite, quoi.
Voilà, il n'y a pas de chat open. Dans Ark Raiders, tu parles, on peut t'entendre à 10 km, enfin on peut t'entendre très très loin. Moi, ça m'est arrivé de parler, de faire l'imbécile, tu vois, tu chantes dans ton micro, machin, les gens viennent te voir. Évidemment, il y en a qui vont te tirer dessus, mais tu peux créer un truc un peu rigolo. Dans Marathon, c'est silence radio. Tu as un chat de proximité au cas où, mais c'est vraiment si tu es avec tes mates ou si tu veux essayer de négocier avec une équipe en face, mais c'est à courte distance. Dans Marathon, tu y vas avec une seule optique, tu dois remplir ta mission, tu dois faire du fric, ramener du matériel, et donc c'est vraiment tout ce qui est sur la map doit être tué. Tout ce qui vient en face de toi sur la map, ce que tu trouves dans ta ligne de mire, si tu peux l'engager, tu l'engages. C'est vraiment un truc qui est sans pitié. Donc c'est intéressant, mais pour les joueurs plus casus, c'est beaucoup plus difficile.
Parlons un petit peu capitalisme, puisque tout à l'heure tu disais que le jeu est orienté ultra-libéralisme, un petit peu dans son esthétique et son lore.
Dans sa vision, oui, c'est une vision dark cyberpunk, c'est cyberpunk très très assez sombre dans son,
mais,
dans son
mais
lore.
Mais parlons capitalisme du coup, quelques jours après sa sortie, les microtransactions de Marathon ont fait se dresser un certain nombre de sourcils sur internet. Toi qui viens de Destiny 2, le précédent jeu de Bungie, qui a également une approche en ligne avec un espoir pour son éditeur, pour son développeur, de ramener du bénéf régulièrement et pendant longtemps, est-ce qu'il y a de nouvelles pratiques ou est-ce que c'est finalement typique pour un jeu online premium de ce genre qui cherche à monétiser partout où c'est possible?
Je dirais pas ça, je dirais que c'est une de mes peurs, notamment au niveau de Marathon, puisque Bungie a un track record qui a maintenant 25 ans, et sur Destiny c'est un track record qui en a 12, puisque Destiny 1 c'est 2014, Destiny 2 2017, donc bientôt les 10 ans de Destiny 2. Destiny 2, on a vu le shift se faire, le changement se faire sur Destiny 2, avec du retrait de contenu qui était avant vendu dans les Season Pass et qui était désormais vendu à part. On se rappelle par exemple sur Destiny 1 de certains bonus de mission ou de certaines petites extensions qui étaient minuscules et qui étaient vendues très cher. On avait blâmé Activision à l'époque. Je ne suis plus sûr aujourd'hui que c'était vraiment poussé par Activision, et je me demande si c'était pas une forte volonté de certains execs chez Bungie de pousser cette monétisation. Et aujourd'hui, Destiny 2, qui est relativement très bas en fait en termes de population maintenant, ce qui est aussi normal pour un jeu de 10 ans, mais c'est compliqué. Nous, on a arrêté avec mon équipe il y a longtemps pour justement une partie de ces problèmes-là, ces problèmes de gestion de communauté, ces problèmes de delivery aussi, parce que les livraisons de contenu étaient très problématiques. Ça va être un problème pour Marathon, donc c'est une inquiétude qu'on a aussi. Sur le moyen terme, c'est-à-dire là, on est bientôt un mois après la sortie, donc est-ce que Marathon fonctionne ? Il a quand même, on arrive au moins 50% de population, sachant que sur Steam, ils étaient à 89 000 joueurs au lancement, et aujourd'hui, on est à peu près entre 45 et 50 000 joueurs quotidiens, et ça va, je pense, continuer à baisser. Ils ont ajouté un mode compétitif en plus qui est quand même assez difficile. Le fait qu'il y ait une orientation qui n'est pas pour les joueurs « occasionnels », entre guillemets, plus cette monétisation, ça me pose des questions en fait. Ça me pose des questions et ça ne me rappelle pas des bons souvenirs, très clairement. Ils vont chercher à monétiser et C'est bien, vendez des tenues. Du moment qu'ils ne vendent pas du contenu qui est ce qu'on appelle du core contenu, du core content, c'est-à-dire du contenu qui te permet d'améliorer des choses ou de gagner. Là, il y a un battle pass, ce qui est normal. Tu peux acheter de la monnaie in-game, c'est normal. Tu peux aussi en acheter sur Ark Raiders. Du moment qu'ils ne poussent pas, évidemment, les prix sont chers. Ça, par contre, et Bungie, ils n'attachent pas les chiens et les saucisses. Mais bon, est-ce que ce sera un cash grab et est-ce que le jeu survivra? Ça, c'est la plus grosse question que j'ai, parce que c'est un bon jeu qui a beaucoup de qualité. Il est très exigeant. Il demande une courbe d'apprentissage qui est un peu vénère au début, parce que les gens qui arrivent sur Marathon ont du mal à comprendre que tu vas mourir très vite au départ. Et qu'au fur et à mesure que tu vas progresser, c'est vraiment le point important. On en rediscutait avec d'autres joueurs qui sont beaucoup plus loin dans le jeu que moi aussi. L'important, c'est le bouclier. Quand tu commences à avoir des boucliers de meilleur niveau, un peu comme dans Ark Raiders, mais c'est encore plus prégnant sur Marathon, si tu as des bons boucliers, tu peux survivre avec une arme un peu moins bien. C'est pas l'armement vraiment qui va définir ta victoire, c'est plus la capacité de ton bouclier. Une fois qu'on a compris ça, le TTK, donc le time to kill, le temps de tuer l'adversaire va baisser et le temps de mourir va baisser. Donc tu vis plus longtemps, tu meurs moins vite et tu peux profiter un peu plus, et tu tues plus évidemment, parce que tu peux profiter plus longtemps des missions. Hormis ça, est-ce que le jeu va réussir à survivre? On est dans un contexte difficile. Les ventes actuellement ne sont pas phénoménales. Sony attendait beaucoup de Marathon, surtout que le jeu a passé 7 ans en développement. Ça va être compliqué, je pense. Mais ça peut être ce qu'on appelle un sleeper build, hein. Ça peut être un jeu qui va traîner un peu la patte au début et qui va ensuite exploser parce que le bon contenu, le bon moment, la bonne population...
Peut-être une baisse de prix à un moment également.
Ça encore, c'est oui, évidemment. Après,
ça peut aider.
Oui, ça peut aider, mais c'est pas constitutif. Il faut que le jeu soit vraiment bon pour que les gens puissent rester dessus et qu'ils s'amusent. C'est surtout ça le problème.
Il faut qu'il le reste, malgré de futures mises à jour. Bien, le jeu s'appelle Marathon, il est disponible sur PC, là où tu l'as testé, mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series. Quant à toi, tu es Franck Extanasier, et on te retrouve dans le podcast Tech2 chaque mois sur Blueprint. Merci d'être passé.
Avec plaisir.
C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir écouté ce 3e épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette émission en écrivant à l'adresse vous@blueprint.pm ou en me contactant sur bluesky@yannrdr ainsi que dans l'espace notes et avis de votre application de podcast pour cette émission. Cet épisode a été monté par Grégory Yenko et Franck Extanasier. Merci à eux d'avoir également répondu, hasard de la programmation, à mes questions. Vous venez d'écouter le jeu vidéo, je m'appelle Yann Rider. Bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit.